Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer cette nouvelle plongée, on va explorer un traité vraiment passionnant sur la fantomologie contemporaine.
Ah oui, vaste programme.
N'est-ce pas? En gros, notre mission, c'est d'analyser comment le concept de fantôme a évolué. On part de l'esprit classique qui hante les châteaux gothiques pour arriver à une simple donnée informatique et sociologique.
Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la littérature a en quelque sorte pavé la voie aux neurosciences. Dès 1826, avec le scepticisme d'un auteur comme Heinrich Heine, on sent un basculement.
Ah oui? Et ça continue à l'ère victorienne.
Exactement. On commence à voir un style récurrent avec des érudits un peu naïfs qui se retrouvent face à des reliques anciennes. Le fantôme n'est plus juste une grosse apparition spectrale. Il gagne en complexité psychologique.
C'est vrai. On a une transition avec une touche clinique presque. Je pense à Maurice Level. Dans sa nouvelle « La nuit et le silence » en 1906, le spectre n'est plus qu'un traumatisme sensoriel. Ou alors le poids de la culpabilité.
Tout à fait.
Et un peu plus tard, en 1930, Otis Adelbert Klein publie « The Man Who Limped ». Là, la hantise n'est même plus un monstre. C'est décrit comme une effrayante usurpation d'identité sociale.
C'est complètement intériorisé, en fait. Et cette obsession de tout rationaliser, on la retrouve côté science.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a le médecin Duncan MacDougall, en 1901. Il tentait carrément de prouver que l'âme pesait 21 grammes en pesant ses patients au moment de leur mort.
Oui, alors que bon, si l'on relie ça à une vision plus globale, les neurosciences modernes ont totalement déconstruit ça. Elles voient plutôt le cerveau comme une machine de Turing biologique.
Un ordinateur organique, en gros.
C'est l'idée. Et avec le principe du physicien Melvin Vopson, l'information possède une masse physique réelle. Donc l'âme n'est plus une substance spirituelle. C'est devenu un poids en bits.
Un poids en bits. Et le fantôme dans tout ça?
Eh bien, il devient une simple entropie résiduelle.
Genre des données qui restent en suspens?
Exactement. Des données qui refusent de s'effacer.
Ce concept de données résiduelles, on peut même le relier à l'aspect social. Dans les sources, on mentionne le mariage posthume en Corée, le yon-on.
Un rite super intéressant.
Oui, parce qu'il est utilisé pour éviter qu'un défunt célibataire ne devienne un fantôme errant. C'est une façon de préserver le capital symbolique et la lignée de la famille.
On gère le bug social en quelque sorte. Et la métaphore technologique des sources va encore plus loin. Jusqu'au purgatoire.
Ah oui, cette partie est dingue.
Je suis vraiment fascinée par cette idée. Le purgatoire vu comme un algorithme de compression de données.
C'est ça. Le péché est traité comme un bruit système.
Voilà. Le purgatoire supprime simplement ces données corrompues pour optimiser la structure de l'être humain. Comme on décompresserait un fichier endommagé.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final pour ceux qui nous écoutent ? Le fantôme moderne n'est plus une âme en peine, c'est devenu un signal en attente de déchiffrement. Ça change totalement la façon dont on perçoit la trace laissée après la mort.
Et cela soulève une question importante pour conclure. Si l'identité se réduit à des données compressées et que l'information possède une véritable masse physique, est-ce que l'univers lui-même pourrait agir comme un gigantesque disque dur?
C'est troublant.
Un disque dur qui conserverait physiquement l'empreinte mathématique inaltérable de chaque individu ayant un jour existé. Ça donne vraiment matière à réfléchir.